venu à vélo. Si vous n'êtes pas venu à vélo, vous repartez. Si vous n'êtes pas venu à vélo, vous allez faire du sport avec Tiffaine. Alors donc, avant ça, Dominique vous présentera Tiffaine dans un instant. Et moi, je vais vous parler pendant deux secondes de la pub en vol. Donc, nous reprenons notre 10e saison. Et nous sommes ravis de vous voir ce soir pour un sujet encore différent de nos sujets habituels, mais c'est ça que nous trouvons intéressant, c'est de vous proposer, donc des sujets différents chaque fois. Ça c'est, je disais donc, 10 ans. Nous allons fêter nos 10 ans le 21 octobre, c'est bien ça, le 21 octobre, à la salle de Carbone. Et nos 10 ans et nos 100 conférences. Donc ce sont des chiffres qui marquent. Et pour fêter ça, nous commencerons dans l'après-midi vers... Alors il n'y aura pas de conférence ce jour-là, hein. On commencera dans l'après-midi vers 17h. Et il y aura des événements artistiques, il y aura du conte, il y aura de la danse, il y aura de la musique. Voilà, il y aura plein de choses. Ensuite, les diatoniques, nous jouerons... Les Diatoniques est un groupe du Volvestre. Nous jouerons pendant une grosse demi-heure, 45 minutes de la musique. Et ensuite, nous aurons l'apéro. Et puis, une auberge espagnole, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, lors de nos conférences. Ayant dit cela, je vais passer la
parole. Et après, soirée dansante.
Ah oui, 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 oui. Soirée, j'oubliais. Après la nourriture, la dépense. Voilà. C'est good ?
Oui. Tiens. Oui, on va pas s'arrêter à l'auberge espagnole, on va continuer toute la nuit. Ah ben, 10 ans et 100 conférences, ça se fait quand même.
Absolument.
Voilà. Alors, on compte sur vous. Hein. Je complète, la fête est libre, entrée libre et gratuite, comme toujours à la pub en vol. Hein. Voilà, vous amenez juste de quoi vous sustenter à l'auberge espagnole. Bon, alors ce soir, nous accueillons Tiffaine, qui va, dans cette rentrée un peu speed, elle va nous emmener... très loin, dans tous ses voyages, qu'elle a commencé petit, et puis ça lui a plu, et elle a fait plus de 50 000 km. Alors je vais lui donner la parole, et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci. Bonsoir, merci à tous d'être venus aussi nombreux, merci à l'organisation de la soirée puis en vol. Donc la soirée va se dérouler en trois parties. Donc d'abord je vais faire une petite présentation avec un PowerPoint. Ensuite je vais vous diffuser un petit film de 15 minutes, un petit montage vidéo que j'ai réalisé sur mon dernier voyage. Et en dernière partie on pourra faire un échange et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tiffaine, donc j'ai 29 ans, je suis parisienne d'origine et je suis installée ici depuis janvier. Et depuis la fin de mes études, j'alterne des grands voyages, donc surtout deux grands voyages dont je vais vous parler à vélo, et entrecoupé de CDD pour financer ces voyages. Donc les deux grands périples à vélo, c'était le premier en 2017-2018, en Afrique et en Europe, et ensuite le deuxième, donc ça c'est le premier, c'est en violet sur la carte, et le deuxième c'est 2021-2022 avec un tour d'Europe à cause du Covid, et ensuite du Mexique jusqu'en Alaska. Alors, comment ça s'est passé? Donc déjà, après mes études, je suis partie un an en visa vacances-travail en Australie, donc pour découvrir le pays. J'ai travaillé quelques mois à Melbourne et je ne savais pas tellement comment découvrir ce pays. Et je suis tombée par hasard sur une publication sur les réseaux sociaux d'un gars, un Français, qui faisait l'Australie à vélo Et en fait, ça m'a beaucoup interpellée, j'ai trouvé ça absolument dingue. Et ça m'a donné très envie de faire la même chose. Du coup, j'ai commencé à me renseigner, j'ai lu des blogs, des sites internet, des livres. Et j'avais envie un peu de découvrir l'Australie autrement que les backpackers qui souvent achètent un van et j'aime pas du tout conduire. Du coup, j'ai fait une toute petite partie d'Australie, parce que c'est un très très grand pays, donc j'ai pédalé pendant un mois de Perth jusqu'à Espérance, donc ça fait vraiment un tout petit truc. Et j'avais déjà prévu d'aller ensuite en Nouvelle-Zélande pendant 2 mois, donc je me suis dit, je vais prendre mon vélo avec moi, ça va être chouette. Et en fait, c'était pas chouette du tout, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est très vallonné, c'était le printemps, et du coup, j'étais sous la pluie tout le temps, je montais des cols avec... du coup, j'avais une petite carriole à l'arrière du vélo, parce que j'avais toutes mes affaires pour un an, que je devais transporter partout, avec plein d'affaires inutiles pour le vélo. Donc du coup, j'ai abandonné, parce que je me suis dit que j'allais être en Nouvelle-Zélande 2 mois dans ma vie, que j'allais sûrement pas y revenir très souvent, parce que c'est très loin. Du coup, j'ai tout revendu et j'ai voyagé autrement, et ça a été une très bonne décision. Mais du coup, ça ne m'a pas empêché de vouloir repartir. Et le fait d'avoir été aussi loin, à l'autre bout du monde, en Océanie, je me suis dit que c'était bête de ne pas connaître les pays qui étaient autour de moi. Donc quand je suis rentrée à Paris, j'ai travaillé un petit peu pour enfouer les caisses. Et puis ensuite, en juin, je me suis dit, je vais retenter l'expérience à vélo. Donc j'ai racheté un matériel très basique parce que j'y connaissais absolument rien au vélo. Donc j'ai fait quelques boutiques parisiennes et j'ai pris ce Winora. Donc c'est un VTC très classique avec tout un équipement très basique. Et pour la petite histoire, comme j'y connaissais rien du tout, la première crevaison que j'ai eue, je n'avais même pas la clé à molette pour enlever la roue, parce que je pensais que tous les vélos avaient des attaches rapides et qu'on pouvait enlever la roue à la main. Donc j'ai essayé tant bien que mal de réparer le truc, mais ça n'a pas du tout marché. Heureusement que ce soir-là, je dormais chez l'habitant et que j'étais pas très loin et qu'il est venu m'aider. La même chose, une fois j'étais arrivée chez des gens qui s'y connaissaient en vélo et je leur ai dit vous pouvez pas regarder ma chaîne parce que je pense qu'il y a un problème. Et le gars il m'a regardé et il m'a dit mais tu l'as acheté neuf ton vélo? Je dis oui. Et il dit tu mets de l'huile dessus? Je dis de l'huile, mais pourquoi faire? Je savais pas qu'il fallait mettre de l'huile sur la chaîne de vélo, donc voilà, j'ai appris petit à petit, en fait ça m'intéressait pas tellement au début, et puis après on est obligé de s'y faire, parce que si on n'a pas envie de passer son temps dans les boutiques de vélo, il faut apprendre sur le tas. Donc du coup, je suis partie en juin, et je me suis dit, je vais aller vers le nord, et parce que j'ai fait en fait tout le parcours un peu en fonction de la météo et des climats. Donc je suis partie en été, je me suis dit, ça va être chouette dans le nord, et puis en fait si ça me plaît, je vais continuer. Et au fur et à mesure, plus on en fait, plus on rencontre des gens aussi qui voyagent à vélo et qui ont fait des tours du monde, et plus on a envie d'en faire. Du coup, quand je suis arrivée en Finlande, je me suis dit pourquoi s'arrêter là, j'ai toutes les clés en main pour continuer. Et du coup, je me suis donné la direction de la Grèce parce que il y allait avoir l'automne, l'hiver, et ensuite remonter la côte. Alors pour ce qui est de l'hébergement, j'avais mes économies de départ et je m'étais dit que moins je dépensais, plus je pouvais voyager longtemps. Donc j'essayais de pas trop dépenser. Du coup je dormais souvent en bord de route, donc que ce soit parfois dans la forêt ou des endroits un peu sauvages, ou alors si je trouvais pas parce que c'est trop peuplé, je demandais à mettre ma tente chez l'habitant ou alors dans un bar ou voilà. C'était possible de dormir. C'était un mélange de tentes et aussi chez l'habitant, donc notamment avec certains réseaux, donc surtout Warm Shower, qui est un réseau d'hébergement entre cyclistes. Outre le fait d'être hébergé chez des gens et de. Moi je suis toute seule toute la journée, donc ça me fait du bien le soir d'avoir des gens avec qui échanger. Et aussi, c'est une façon quand même de rencontrer les gens, de voir comment ils vivent, comment ils habitent, parce qu'on est souvent dans d'autres pays. Donc c'est rentrer dans une maison, c'est voir un peu le quotidien de gens qui sont différents, et c'est très enrichissant. Voilà, donc là, j'ai mis la photo à gauche de ce couple parce que je me souviens bien d'eux, parce que c'est les premiers qui m'ont parlé de leur fils qui avait voyagé en Afrique à vélo. Et donc, à partir de ce moment-là, ça m'a planté une petite graine dans la tête et j'ai commencé à me dire que ce serait chouette de continuer là-bas. Il y a eu ce couple-là et un deuxième voyageur à vélo que j'ai rencontré qui avait aussi été en Afrique. Et donc moi, la grosse question, c'était de savoir si je pouvais garder en fait mon vélo et tout mon équipement et que j'ai pas besoin de racheter quoi que ce soit. Et on m'avait dit non, il n'y a pas de problème. Mais plus je parlais de ce projet, plus j'avais de la pression autour de moi, notamment de ma famille, certains amis et des connaissances un peu plus éloignées qui me disaient « Oui, mais tu sais, être une femme seule sur un vélo en Afrique, c'est pas forcément très sécuritaire. » Et du coup, j'étais en contact avec Martin, qui est un cycliste allemand, et qui avait aussi pour projet d'aller au Maroc, à peu près à la même date que moi. Donc on s'est mis d'accord sur quelques trucs, c'est-à-dire le budget, le nombre de kilomètres qu'on fait par jour. Enfin, il fallait quand même que les voyages soient un petit peu identiques pour que ça puisse se coller. Et donc ça a plutôt bien collé puisqu'on a fait les 7 mois ensemble et qu'on est reparti après pour l'autre voyage ensemble aussi. On s'est rencontrés à Tanger, au Maroc, et puis on est descendu jusqu'en Guinée-Bissau. Et on devait faire une partie de l'Afrique de l'Ouest, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que finalement on a décidé de changer de côté. Et ça a été une très bonne décision parce que c'était la fin de la saison des pluies en Afrique de l'Est, donc il faisait beaucoup moins chaud, parce qu'au Sénégal, en Guinée, on souffrait beaucoup de la chaleur. Et aussi il y avait le côté animaux sauvages sur la partie Est. Donc là, tout de suite, l'Afrique, c'est un gros changement. On est deux étrangers sur des vélos et on passe dans des petits villages où il n'y a parfois aucun touriste qui sont passés. Donc en fait, on attire une attention qui est quand même assez énorme et qui peut être très chouette comme qui peut parfois être fatigante parce qu'on a, parfois on a pédalé toute la journée, on est fatigué, on a juste envie d'être tranquille et de manger, de dormir. Mais en fait, souvent, il y a quand même tout le village qui s'arrête de vivre pour nous regarder. Donc, comme sur la photo, où en fait, on était obligé de montrer tout notre équipement et faire une petite démonstration de tout. Mais après, ça fait des moments très chouettes aussi. Pour ça, c'était bien d'être deux. C'est aussi le dépaysement culturel, parce que c'est vrai que... déjà, il y a la barrière de la langue, parce que nous, on ne parle pas la langue locale. Et aussi, il y a des façons de vivre qui sont parfois très différentes. Par exemple, en Afrique, les gens utilisent beaucoup les vélos, mais pour des raisons très différentes de nous. Donc c'est difficile, en fait, d'échanger quand les vies sont si différentes. Par exemple, on avait rencontré un monsieur qui était sur un vélo, et donc lui, il était à côté de nous, il portait un sac de riz de 90 kg, il faisait 100 km pour aller à la prochaine ville pour gagner 2 $. Donc là, c'est vrai que c'est difficile on peut pas comparer de se comprendre tellement c'est éloigné. Nous, on voyage pour le plaisir, on a cette chance-là, mais c'est... pour ce qui est du voyage à deux, parce que c'est vrai que c'était un contraste aussi assez brutal de voyager. Donc j'ai voyagé pendant 7 mois où j'étais toute seule. Donc là, on se pose pas de questions. En fait, on s'arrête quand on veut, on pédale autant de temps qu'on veut, etc. Alors qu'à deux, il faut faire des compromis sur tout. On est H24 ensemble. Et en fait, on a parfois des rythmes qui sont différents, sur des choses bêtes en plus, mais moi par exemple, je me lève le matin, j'ai faim, donc il faut que je mange avant de pédaler, et Martin, lui, il a envie de faire du vélo pendant une heure ou deux avant de prendre son petit-déj, alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête deux fois? Est-ce qu'on, alors au lieu de pédaler 2 heures, on pédale 1 heure et on s'arrête? Et il faut se concerter sur tout. Et parfois, c'est pas des choses qui sont évidentes. De toute cette traversée, je retiendrai deux routes marquantes qui sont la première, la traversée du Sahara. Donc, en fait, au sud du Maroc jusqu'en Mauritanie, il y a à peu près 1700 km, donc environ 3 semaines dans le désert, qui était une des meilleures portions de l'Afrique, avec au début un paysage plutôt rocailleux, orangé, un peu vallonné du côté du désert marocain, et puis ensuite la Mauritanie, des dunes de sable, et c'est vraiment, chaque rencontre est marquante parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et en plus c'est juste, on n'a pas besoin de se préoccuper de savoir est-ce qu'il faut tourner à droite, à gauche, il y a des voitures, la circulation, en fait ça permet à l'esprit de s'évader, et moi j'adore ces lignes droites. Mais surtout quand le vent est avec nous, parce qu'il faut savoir que dans le Sahara, il y a du vent tout le temps, et qu'il est surtout nord-sud, donc c'est vrai qu'au Maroc, on faisait 20 km/h sans trop d'efforts, et que quand il a tourné en Mauritanie, ça a été une autre histoire, parce que du coup, là, c'est bien différent, et c'est un peu moins drôle. La deuxième route, c'est l'Elephant Highway, on la surnomme comme ça. C'est une route au Botswana qui longe le parc national Chobe, à l'est. Et voilà, c'est absolument magique d'être sur une route publique et de voir, envoyer des éléphants chaque jour. Donc on a appris un peu à se comporter avec les éléphants parce que quand on était en Ouganda, on s'est quand même fait charger par un éléphant parce qu'on était sur un tout petit chemin avec de la végétation très dense de part et d'autre. Et donc on n'avait pas vu les éléphants venir et moi j'avais fait du bruit et ça a dérangé un éléphant qui voilà, donc il nous a chargé juste, on appelle ça un fake charging parce que s'il voulait vraiment nous avoir, il nous aurait eu, donc c'était juste pour nous impressionner, mais voilà, une fois qu'on savait qu'il fallait leur laisser leur espace et leur zone de confort, ça a été un petit peu mieux. Alors on me demande souvent le pire moment. Alors le pire moment, c'était en Tanzanie, on était sur une route comme ça. C'était un chemin où il n'y avait pas grand-chose, il y avait à peine des villages pendant des kilomètres et des kilomètres. Et on a eu quelques mouches qui y arrivaient, mais c'est pas des mouches, juste des mouches, parce que sinon ce serait trop facile. Ça ressemble à des temps, ça se comporte comme des temps, c'est-à-dire c'est très agressif, ça veut nous piquer. Et en fait, plus on avance, plus on en a. Donc au début on met nos caouets pour éviter qu'elles nous piquent à travers, sauf qu'il fait quand même 35 degrés, donc on pédale avec un caouet, donc on perd beaucoup d'eau et en fait, au bout d'un moment j'avais quand même peur qu'on meure d'épuisement, mais presque, en fait c'était un tel cauchemar avec toutes ces mouches qui nous tournaient autour, on pouvait pas boire, on avait une main sur le guidon et une main qui essayait de tuer ce qui se posait sur le visage, sur les jambes, enfin il y en avait partout. Et donc ça, c'était vraiment le pire cauchemar. Ils nous ont suivis comme ça pendant 2 heures. Et ensuite, il y avait une cabane sur le côté, il était 17h. On a dit, il faut qu'on s'arrête, c'est pas possible. On a monté la tente très rapidement, on a tué les dernières mouches qui ont réussi à rentrer. Et voilà. Après, il faut savoir que les mouches tchétchènes, c'est un vrai fléau en Afrique. Ça peut transmettre la maladie du sommeil, ce qui fait que ça tue le bétail. Et donc du coup, ça rend l'agriculture impossible. Alors quand je rentre de voyage, c'est toujours la phase la plus difficile, en fait. Parce que là, je peux raconter les pires moments, mais au final, on se prépare rarement au retour. Et c'est une transition qui est pas facile. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est surtout l'écriture, parce que du coup, ça me permet de me replonger dans le voyage, de prendre un peu du recul, et puis donc d'être à un endroit, mais encore un peu m'évader. Donc voilà, j'ai publié un premier livre auto-édité, j'ai ramené quelques exemplaires ce soir, et puis j'en ai écrit un deuxième sur le deuxième voyage. Donc en février 2020, avec Martin, on décide de repartir. Cette fois-ci, comme on a un projet d'aller jusqu'en Thaïlande, on envoie un peu des dossiers de sponsoring, donc on arrive à avoir un peu de l'équipement, surtout pour moi, qui avait un équipement très basique. Donc là, je passe à des sacoches imperméables et un vélo un peu plus confortable. Donc ça, c'est très chouette. Sauf qu'au bout de 3 semaines, février 2020, tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc on est arrivé jusqu'en Hongrie et là, les frontières ont commencé à se fermer. Donc on s'est posé la question de quoi faire et on s'est dit, au début, on pensait rester quelques semaines, le temps que ça se tasse en Hongrie. Et puis finalement, quand l'Allemagne et la France ont annoncé la fermeture de leurs frontières, on s'est dit, vaut mieux rentrer tant qu'on peut. On n'avait pas non plus envie d'être dans un pays où on ne connaît pas la langue, où on ne connaît pas le système de santé pendant une pandémie. Donc on est rentré. On a acheté nos billets très précipitamment, donc on a dû laisser nos vélos en Hongrie. Donc ça, c'était un peu triste parce qu'on ne les avait pas après pour le confinement. Heureusement qu'après, pendant l'été, ça s'est un peu réouvert, donc on a pu aller chercher nos vélos en Hongrie. Et puis, on a fait autre chose pendant un an. Martin, lui, il a eu la chance de pouvoir reprendre son travail. Moi, non, mais du coup, je me suis mise à la rando, au kayak et à d'autres petites choses pour faire passer le temps. Et puis ensuite, au bout d'un an, en Allemagne en tout cas, il y avait déjà pas mal de restrictions qui étaient levées en mars. Donc on s'est dit, on va déjà aller faire le tour de l'Allemagne, on ne l'avait pas fait, donc on va voir un peu ce que ça donne. Et donc là, au lieu de vous parler de tout ça, je vais vous projeter un petit film. Donc c'est un petit montage vidéo très amateur que j'ai fait. Donc je faisais des petits clips vidéo pendant que j'étais en voyage et je l'ai monté à mon retour.
Je m'appelle Tiffaine et en 2017, je suis partie pour un voyage de 7 mois seule à vélo en Europe, suivi de 7 mois en Afrique avec Martin, un cycliste allemand, pour un total de 20 000 km. En février 2020, nous avions comme projet d'essayer de rejoindre la Thaïlande à vélo depuis l'Allemagne. Malheureusement, après seulement 3 semaines de voyage, le Covid vient chambouler notre programme. Retour à la case départ. Un an plus tard, en mars 2021, nous décidons de reprendre la route. Seul le continent européen nous est accessible pour le moment à cause de la fermeture de nombreuses frontières. Nous en profitons pour explorer nos pays respectifs, en commençant par l'Allemagne. Les premières semaines sont exceptionnelles. Quel bonheur de pouvoir sortir de chez soi, de pouvoir voyager en ces temps si particuliers, après un long confinement, malgré le froid qui nous met à l'épreuve. Après un mois et demi à faire le tour de l'Allemagne, nous prenons le risque de traverser des frontières, malgré les restrictions toujours en cours. Nous traversons les Alpes par l'Autriche pour rejoindre l'Italie. Nous rejoignons la côte méditerranéenne pour arriver en France. Je prends plaisir à découvrir mon pays, et notamment les cols mythiques du Tour de France dans les Pyrénées. Arrivés à Paris, nous sommes indécis quant à la suite de notre voyage. Finalement, nous ferons un saut en train pour pédaler sur la côte ouest danoise afin de rejoindre la Norvège. C'est la première fois que je mets les pieds en Norvège. Les routes sont vallonnées la météo parfois capricieuse, les tunnels sont une épreuve, mais ces petits désagréments ne sont rien comparés à la beauté des paysages, des routes reculées, de la faune sauvage et de la possibilité de camper partout. Nous atteignons les fameuses îles Lofoten, notre point le plus au nord. Nous redescendons au sud par la Suède. Ces grandes étendues sauvages sont propices au voyage à vélo. Mais le contact humain et le dépaysement me manquent terriblement. Nous réservons un avion pour le Mexique depuis Bruxelles pour début novembre. Il nous faut donc repasser par l'Allemagne, où notre sponsor vélo nous invite à venir réparer nos montures. Puis nous traversons les Pays-Bas pour rejoindre la Belgique. Novembre 2021. Nous arrivons à Cancun. Je suis très enthousiaste de découvrir un nouveau continent à vélo et le Mexique m'apporte le dépaysement dont j'ai besoin. Mexique, nous bifurquons vers le Guatemala, encore hésitant à monter au nord ou aller au sud. Nous faisons une boucle dans ce petit pays, plus longue que prévu car les routes sont si mauvaises et si pentues que nous peinons parfois à parcourir ne serait-ce que 40 km par jour. Heureusement, le reste est facile. Nourriture en abondance, gens chaleureux et voyage dynamisé par d'autres cyclistes rencontrés en route. De retour au Mexique, nous entamons notre traversée sud-est-nord-ouest. Les kilomètres défilent. Le pays est d'une richesse incroyable. L'ascension du Nevado de Toluca, à plus de 4000 mètres d'altitude, est un défi de taille, mais une expérience unique. Le passage en Basse-Californie est comme un renouveau. La péninsule désertique est bien différente du Mexique continental. Les paysages sont extrêmement pittoresques, mais le milieu parfois hostile, surtout avec le vent qui ralentit notre progression. Mi-mars 2022, nous passons la frontière américaine. Après 3 mois et demi au Mexique et 1 mois au Guatemala, ce nouveau pays hors de l'Amérique latine est un nouveau souffle. Nous sommes néanmoins un peu mitigés sur ce pays centré autour de la voiture. Mais en contrepartie, l'accueil et la positivité des Américains dépassent toutes nos espérances. Les parcs nationaux ravivent également notre joie d'être ici, et des itinéraires sur des plus petites routes nous réconcilient petit à petit avec ce pays. Nous quittons les États-Unis par le ferry pour l'île de Vancouver au Canada. Nous laissons tomber l'idée de finir le voyage sur la côte est pour monter au nord. Le détour de quelques centaines de kilomètres par Banff et Jasper en vaut 1000 fois la peine. Les paysages sont si époustouflants qu'on a parfois du mal à en croire nos yeux. Progressons vers le nord, plus les routes sont reculées. Nous passons quotidiennement entre 7h et 10h sur le vélo. Les journées sont longues, les distractions inexistantes, les ravitaillements très espacés et les moustiques embêtants à chaque arrêt. Tout nous pousse à pédaler sans relâche. Seuls les animaux sauvages, que nous prenons plaisir à observer dans leur environnement naturel, viennent couper notre élan, et à chaque rencontre, c'est un émerveillement sans nom. Nous quittons le Canada le 1er août pour notre dernière étape, l'Alaska. Le parc national de Denali, qui abrite le plus haut sommet d'Amérique du Nord, sera notre dernière étape marquante avant Anchorage, destination finale du voyage. Après 1 an et demi de voyage, dont 10 mois en Amérique et 30 000 km à vélo, il est temps de rentrer. Il me reste en tête plein de souvenirs, d'innombrables rencontres, la joie d'avoir pédalé des endroits si diversifiés, la fierté d'avoir persévéré malgré les moments difficiles, d'avoir bravé les intempéries. Comme à chaque voyage, je suis touchée par la bienveillance des gens. J'en ressors grandie et plus vivante. Le voyage est une belle leçon d'humilité, un retour aux choses simples, un décalage avec la société dans laquelle nous vivons. J'apprends sur moi, sur le monde, qui n'a pas fini de m'étonner, et j'ai encore tant à apprendre. Une page se tourne pour qu'une nouvelle puisse s'écrire. Thank you.
Voilà. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Du coup, on peut passer à l'échange si vous avez des questions. Oui.
La langue, c'était l'anglais partout, non?
Est-ce que la langue, c'était l'anglais partout?
Oui.
Non, pas partout, ça dépend des pays. En Afrique, c'était pas toujours l'anglais, mais non, il y avait des pays qui parlaient plutôt français en Afrique, et sinon espagnol, Mexique, Guatemala. Après, nous, on parle pas toutes les langues, donc c'est vrai que c'est parfois un peu une barrière, puisque voilà, quand il y a. Mais il y a d'autres choses qui se. Il y a d'autres échanges qui sont non verbaux aussi.
Quand vous étiez toute seule et que vous aviez votre tante,
oui.
Vous avez dû quelquefois avoir tort. J'essaie de m'imaginer de tenter là. Il y a des pays comme en Norvège ou peu, d'autres pays qui
oui. Prennent peut-être plus. Oui, alors c'est vrai que un peu inconsciemment, quand je plantais ma tente, j'avais mis un peu des mécanismes en place qui étaient surtout donc quand je campais. Déjà, j'essayais de me cacher le plus possible. Ensuite, je m'assurais que personne m'ait vu. Et quand je montais ma tente, généralement, c'était pour me mettre dedans directement. C'est-à-dire que, une fois que je suis dans la tente, personne ne sait qui il y a dedans. Donc, personne ne sait si c'est une femme, un homme, un jeune, un vieux. Et c'est vrai que, par exemple, une fois, j'avais fait l'erreur d'être à côté d'un petit village et puis il y avait un joli lac avec une table de pique-nique et je me suis dit, oh, c'était un endroit cool. Et donc j'ai monté ma tente, je sais pas, j'ai dîné après. Et là, il y a eu un groupe de 4-5 mecs qui sont posés sur la table de pique-nique avec des gros alcools forts. Où là, je me suis dit qu'effectivement, c'était un peu voilà, s'exposer à des risques en fait d'être vu par des gens et aussi de monter sa tente trop haut. Donc après ça m'a bien servi de leçon, ça s'est rien passé, mais on se sent très vulnérable mais après c'est quand même assez rare et finalement des bonnes histoires, il y en a quand même mille fois plus que des moments où ça c'est voilà, j'avais plus peur quoi. Combien de kilomètres par jour en moyenne? C'est très, très variable en fonction des pays, mais je dirais entre 80 et 100 kilomètres. Alors après, au Guatemala, donc effectivement, là, c'était... quand on faisait 40 kilomètres, on était contents parce que c'était très dur. Mais après, ça pouvait aller quand on était dans le nord du Canada et que voilà, il n'y avait rien d'autre à faire. Dès qu'on s'arrêtait, on avait un nuage de moustiques, et alors que quand on pédalait, on était tranquille. Et en plus, les journées étaient très longues, puisqu'on était en été et que le soleil se couchait très tard. Donc là, on faisait du 150 km par jour, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que de faire du vélo. Donc ça dépend vachement, ça va de 40 à 150, mais en moyenne, c'est 80-100, ce qui n'est pas, au final, énorme. Hein. C'est pas, je veux dire, quand on fait du vélo, on n'est pas essoufflé, c'est pas un effort... on fait peut-être du 15 km/h, et c'est pas rapide, en fait. C'est plus de l'endurance que de la rapidité, quoi.
Comment réagissait vos corps à cette charge que vous aviez chaque jour et au climat qui changeait?
Comment réagissaient nos corps? C'est vrai que le vélo, c'est quand même pas tellement un effort physique qui est traumatisant, donc nos corps, ils sont habitués déjà à l'effort, parce que les premiers jours, le soir, j'avais des grosses courbatures et je me suis dit comment je vais refaire ne serait-ce que quelques kilomètres demain. Et puis au final, on se remet sur le vélo et puis on rechauffe les muscles. Et après, c'est vraiment de l'endurance. Et après, ce qui est du climat, et c'est vrai que l'avantage d'être en vélo, c'est que ça va doucement. En fait, si là aujourd'hui on prend un avion et qu'on va en hiver en Sibérie, et on va avoir un choc entre le climat d'ici et le climat de là-bas, alors qu'à vélo, on y va progressivement. Donc il n'y a pas vraiment de choses. Enfin, les corps réagissent bien puisque c'est très progressif.
Et vous aviez pensé qu'en cas de pépin, ne serait-ce qu'une foulure, une entorse, un bras cacheté, vous saviez quoi faire, vous aviez moyen
En cache-coulure, tout ça, non, on peut pas anticiper chaque problème, en fait. C'est ce que le voyage nous apprend, c'est qu'on prend les problèmes comme ils viennent, et quand ils viennent, on se demande ce qu'on fait, parce que si on devait anticiper tout ce qui pouvait nous arriver, ce serait bien trop long, trop compliqué, donc voilà, après... J'en ai pas parlé, mais par exemple, je sais pas si vous avez vu, sur la carte de l'Afrique, il y a une portion en bus après le Maroc, parce que justement j'ai eu un accident. Voilà, il y avait une route qui descendait, qui était assez pentue, qui remontait après, donc j'ai voulu prendre de l'élan. Et en fait, la route, elle devait être un peu mouillée, un peu grasse aussi, des essences de voiture. Et, enfin bref, j'ai pris le virage et je me suis couché sur mon vélo sur moi et je me suis éclaté le genou, quoi. Donc bah, là, bah oui, je ne pouvais pas anticiper que j'allais avoir ça ici et maintenant. Et après, c'était quoi faire parce que je ne pouvais plus pédaler. Donc heureusement, je connaissais des gens au Maroc. Donc du coup, j'ai pris un bus pour Casablanca et j'ai été chez eux pendant 3 semaines parce que je ne pouvais pas faire de vélo pendant 3 semaines. Et puis Martin, lui, est reparti. Après, j'ai pris un bus pour le rejoindre. Comme ça, il ne restait pas à rien faire. Mais après, bah, voilà, si le genou était cassé et que je ne pouvais pas repartir, bah, voilà, je serais rentré. Quoi. Mais, si c'est possible d'attendre et que ça se répare.
Vous n'étiez jamais malade?
Jamais malade, aussi, si vous voulez savoir tous les trucs que j'ai eus, je peux vous raconter, mais ça va pas être très joyeux. Mais si, bien sûr, on a déjà été malade, on a eu le Covid au Guatemala, on a eu... moi j'ai eu une infection à cause d'une tique qui s'était mise sur mon crâne en Afrique. On n'a pas eu palu, on a eu de la chance, mais si, bien sûr, on a été malade, mais voilà, après on s'arrête quelques jours et... Et dans tous les cas, qu'on soit malade ou pas, hein, on ne fait pas du vélo non plus 365 jours par an. On fait quand même des pauses dans tous les cas. Quand on arrive dans une grande ville et qu'on est chez l'habitant et qu'on nous propose de rester une deuxième nuit, ben voilà, on se repose, on fait autre chose et on visite une ville. Quoi. Donc c'est pas... Donc oui, ça nous est arrivé d'être malade, mais ça ne nous a pas empêché de continuer après.
Vous avez été reçu chez l'habitant dans votre entrée à la maison. C'est le hasard ou vous l'aviez préparé?
Ah oui, non, ça c'est comme je disais, c'est un réseau, c'est un site internet où en fait il y a une carte du monde et on peut voir les gens qui hébergent. On envoie un message et si les gens sont là et qu'ils peuvent nous accueillir, et ben on va chez eux. Et souvent ça on l'anticipait surtout pour ce qui est des grandes villes, parce que c'est vrai que les grandes villes c'est plus compliqué de mettre sa tente dans le parc public du coin. Donc du coup quand on voyait qu'on allait arriver dans une grande ville 2-3 jours avant, on regardait la carte et on envoyait une demande. Et voilà. Après on a eu des rencontres aussi spontanées, hein, avec des gens qu'on rencontre dans la rue, on discute un peu, et puis après on leur dit, ah ben on sait pas où est-ce qu'on va dormir ce soir, et même sans demander, parfois il y a des gens qui nous proposent, et quelques fois on a dormi chez des gens qui nous ont invités spontanément. Et puis après, quand on demandait aussi à dormir sur le terrain des gens avec notre tente, ça c'était pareil, quand on avait du mal à trouver un terrain, parce que parfois il y a des zones en Europe quand même où c'est que des terrains privés ou des terrains agricoles, etc. Donc c'est pas facile. Et donc là, par exemple, quand j'étais toute seule, en plus ça rajoute une sécurité, je demandais, voilà, je voyais quelqu'un qui était dans son jardin et je disais, excusez-moi, je cherche un endroit pour la nuit. Et puis c'est vrai qu'un bout de terrain, c'est un peu moins intrusif que de dormir chez eux, mais du coup c'est sympa aussi.
Une autonomie alimentaire
de combien de jours? Une autonomie alimentaire, il n'y avait pas énormément d'endroits, à part dans le Sahara, où là il fallait prévoir un peu les ravitaux parce qu'il y avait des grosses portions sans rien, où on avait peut-être 4-5 jours de nourriture, mais pas plus. Et finalement, avec un réchaud, 2 paquets de pâtes et des flocons d'avoine, et en fait, c'est pas. Ça n'a jamais été un gros problème de se dire, ah, on n'a pas assez de place pour mettre dans les sacoches, et c'est que des routes où... En fait, on fait quand même relativement une grande distance. Pareil, au Canada, il n'y avait pas de la nourriture partout, mais comme on faisait 150 km par jour, au final, il y a toujours quand même une station-service ou quelque chose, ou une lodge où on peut acheter à manger ou quelque chose. Donc on n'avait jamais énormément de nourriture sur nous. Je ne sais pas qui a la parole, mais
oui. Est-ce que vous êtes toujours amie avec Martin?
Est-ce que je suis toujours amie avec Martin? J'aurais dû choisir quelqu'un pour dire la question. On est toujours amis, oui, mais on n'est plus ensemble. On est restés ensemble pendant 5 ans et on s'est séparés à notre retour d'Alaska. Voilà.
Quand on regarde vos photos, on a l'impression que vous ayez beaucoup de bagages, alors que vous avez une tente, des sacs de couchage. Vous aviez combien de kilos de bagages?
Alors, sur le premier voyage, je n'avais pas vraiment calculé, mais sur le deuxième voyage, on avait 20 kilos à peu près de bagages. Donc chacun, 20 kilos chacun. Donc c'est relativement beaucoup quand même, mais nous, on ne compte pas tellement les grammes et les kilos, et on préfère avoir un peu notre confort, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait un sac de couchage quand même pour des températures assez fraîches, on avait le réchaud, on avait des gants, un bonnet, enfin on n'avait pas envie, il y a des cyclo-voyageurs qui se font envoyer des colis, par exemple quand ils changent de saison ou de continent, ben, ils enlèvent certains trucs du paquetage, ils se font des... En fait, nous on préfère avoir tout sur nous et puis avoir un certain confort, parce que c'est vrai qu'on voyage longtemps, donc c'est aussi bien d'avoir un peu un minimum, quoi.
Et l'eau, concernant la nourriture au Sahara, quelle est l'eau?
Alors concernant l'eau, il faut savoir que dans le Sahara, on était là-bas en hiver, donc déjà dans la journée il faisait pas la chaleur astronomique, donc il faisait entre 25 et 30 degrés, donc on ne buvait pas non plus des litres et des litres. Après pour l'Afrique, on avait pris un filtre à eau, donc ce qui nous permettait de boire de toutes les sources. Donc à chaque fois qu'il y avait un village ou une source d'eau, on pouvait boire. Et puis dans le Sahara, pareil, bah, c'était comme pour la nourriture. En fait, on avait un gars super qui a fait un blog avec tout ce qu'il y a sur cette route, en fait. Avec au kilomètre 50, il y a ça, au kilomètre machin. Et puis les gens, en plus, actualisent un peu les données. Donc on savait à peu près où il y avait une épicerie et où il y avait de l'eau. Et voilà, on peut mettre déjà 3 litres sur le cadre du vélo. Et après, on rajoutait des bouteilles parfois au-dessus, mais... On n'avait jamais plus de 4-5 litres d'eau.
En Afrique, vous
n'avez
jamais eu de problème avec des animaux? Vous avez raconté cet épisode avec l'éléphant, ça devait être une femelle qui cherchait, mais il y a d'autres, comme le jaguar.
Alors, on n'a pas eu de problème avec les carnivores. Après, on faisait attention, sur cette Elephant Highway, on dormait toujours à des endroits où il y avait soit un village, soit une station-service, soit quelque chose. En fait, ils ont des antennes aussi téléphoniques qui sont gardées avec quelqu'un. Et donc là, on faisait l'effort de à chaque fois dormir, pas juste en bord de route. Et justement, après cette route, on a bifurqué vers l'ouest. Et en fait, on a un peu oublié ça parce que c'était cette portion qui était l'Elephant Highway. Et à ce moment-là, le soleil se couchait, et en fait, donc effectivement, pour éviter d'avoir des problèmes avec les félins, il faut planter sa tente et se coucher avant le coucher du soleil, parce qu'ils chassent surtout la nuit. Et donc, du coup, on s'est fait un peu prendre par le temps, et donc on a pris un petit sentier, et on a planté la tente avant le coucher du soleil, sauf qu'on a bien vu qu'il y avait quelques pousses d'éléphants. Mais on n'avait pas trop le choix, en fait. C'était soit pédaler au coucher du soleil, soit se mettre ici. Et donc là, on a eu encore un problème avec des éléphants, puisque on s'est couché et une demi-heure plus tard, on a entendu des bruits. On pensait que c'était des lions, mais en fait, c'était des éléphants. Donc il y avait 3 éléphants autour de notre tente qui étaient en train de manger tranquillement. Sauf que nous, on avait fait un petit feu pour essayer d'éloigner les bêtes qui, au bout de 20 minutes, s'est éteint. Et puis après, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. C'est soit on attend et on prie, même si on n'est pas croyant, soit on sort de la tente en courant, mais pour aller où? Nulle part. Donc du coup, on a attendu et on a eu de la chance qu'ils... En fait, ils ne sont pas forcément agressifs, c'est juste qu'ils auraient pu en fait, ne pas voir la tente, qui était quand même toute petite, et marcher dessus. Ou ça. Voilà, et, ils ont mangé tranquillement, on les a surveillés, et puis au bout d'une heure ou deux, ils sont partis. Et, voilà. s'est rien passé. Mais voilà, donc c'est surtout les histoires avec les éléphants. Et puis après, de toute façon, l'animal le plus dangereux en Afrique, c'est clairement le moustique. Donc on pense toujours aux grosses bêtes, mais en fait, oui, le moustique, c'est lui qui transmet la plupart des maladies. Le palu, il fallait qu'on y fasse attention. On ne prenait pas de traitement préventif parce qu'on ne voulait pas en prendre un sur une si longue période. Mais là, il fallait quand même faire attention aux moustiques. Donc c'est plus ça.
Par rapport au choix des routes que vous avez utilisées, est-ce que c'était par rapport à d'autres justement vélos qui avaient pris la route, ou bien c'était un petit peu l'aventure et puis le désir de découvrir quoi.
Alors concernant le choix des routes, oui, bah alors comme moi, c'est vrai que déjà la partie européenne, c'était assez improvisé et que c'était plus une destination à me dire bah, je vais pédaler, voilà, je vais aller vers le nord et donc je faisais pas beaucoup de recherches. Ce qui n'était pas forcément très judicieux parce que parfois je me retrouvais sur une route ultra passante, pas du tout agréable pour les vélos, alors que 20 km en parallèle il y avait un super itinéraire cyclable. Après c'est là que quand on est hébergé en warm shower par des habitants qui justement aiment aussi le vélo puisque c'est une communauté de cyclistes, c'est vrai qu'eux ils aiment le vélo, ils connaissent le coin et donc parfois ils me recommandaient des routes ou des chemins qui étaient plus agréables. Mais et après en Afrique il n'y avait pas 36 routes en fait, c'est soit la route principale qui est bitumée, soit il y a des petites routes secondaires, mais généralement c'était surtout en fait une direction quoi. Quand on était à un endroit et se dire bon ben, on va vers là-bas et puis après on regardait un peu les cartes, mais après c'est de faire des recherches et de trouver des itinéraires un peu plus cyclables, c'est chouette aussi parce qu'on c'est vrai que le trafic, en fait, à vélo, c'est ce qui est le plus dangereux, finalement, plus que les éléphants. Et c'est bien de pouvoir l'éviter.
C'est à moi. Question bête.
Question bête, j'ai eu la question de Martin, donc c'est bon. Alors, au niveau des batteries, téléphone, tout ça, alors moi j'avais un petit panneau solaire, donc ça ne marche pas super bien, mais ça dépanne quand même, et puis avec une batterie externe. Et Martin, lui, il avait un truc qui est pas mal, c'est parce qu'on avait il avait sur son vélo des dynamos moyeux pour la lumière. Et donc il y a un système qui permet aussi de charger, de mettre une connexion et de charger USB. Sauf que bon, c'était pas le meilleur truc, parce qu'il faut rouler quand même assez vite. Donc on n'était jamais très très rapide pour que ça charge vraiment bien. Donc quand ça montait ou c'était plat, c'était pas le top. Mais si ça descendait ou qu'on allait au cabinet du vent avec nous, ça chargeait bien. Mais après sinon, voilà, quasiment partout dans le monde, il y a quand même pas mal d'endroits pour charger de nos jours. Donc on n'a jamais eu de problème de batterie.
Les prochains projets.
Alors, déjà, moi j'aimerais bien repartir en mars pour aller jusqu'au Népal et en vélo et ensuite faire la traversée de l'Himalaya à pied. Mais ça, c'est un projet voyage, mais après, j'aimerais surtout à terme, dans quelques années, allier un peu l'éducation spécialisée et le vélo ou la marche, enfin, en tout cas, l'itinérance. Et donc je suis éducatrice spécialisée et déjà par exemple cet été j'ai emmené trois jeunes en vélo jusqu'à l'Atlantique depuis ici, donc on a fait cette étape de 50 km et c'est vrai que moi j'ai beaucoup appris pendant ces voyages et mais voilà maintenant je commence à être un peu plus dans ma zone de confort et j'ai eu un peu toutes les galères possibles, donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est voilà, emmener les jeunes et qu'ils apprennent aussi par l'itinérance et le voyage des choses pour eux. Quoi.
Bernard.
Oui, vos images sont très belles et vous êtes deux sur la route en train de pédaler. Mm-hmm. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était chargé de vous filmer?
Non, ça, c'est le truc bête de mettre la caméra ici, de faire du vélo et de venir la rechercher. C'est pour ça que les plans sont toujours par terre, ou alors si on trouve un muret, mais non, il y avait personne qui filmait, et voilà, et si vous connaissez un peu des films de voyageurs et il y a bien plus beau, on n'a pas de drone, pas de choses comme ça. Donc c'est juste une petite GoPro, mais effectivement, voilà, parfois pour avoir des prises à deux, on la pose, on roule. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas 36 000, parce que c'est quand même un petit effort de faire ça, et on le fait quand il fait beau.
À propos du vélo.
Vous avez traversé en avion, donc vous avez pu mettre vos vélos dans l'avion ?
Oui, c'est tout à fait possible de mettre les vélos dans l'avion. Généralement, ça dépend des compagnies, mais généralement, il faut les mettre dans un carton, donc c'est-à-dire juste démonter les roues, enlever les pédales, tourner le guidon pour que ça rentre un peu dans un carton.
Ah, on a vu un carton sur le...
Oui. Après, les cartons sont plus ou moins faciles à trouver, puisque quand on était à Dakar et qu'il fallait tourner à Nairobi, il n'y avait pas de carton vélo, parce qu'ils réutilisent tout. Donc on avait commencé une semaine avant à collecter les tout petits cartons de supermarché pour essayer d'en faire un grand. On a eu la chance d'être chez quelqu'un qui travaillait dans un endroit où ils ont reçu des télés. Et du coup, ils ont des deux gros cartons de télé pour vous, qui étaient quand même un peu trop petits, mais on a réussi à les pistoler pour les mettre un peu plus grands. Mais sinon, oui, c'est toujours un peu un risque hein, quand même de mettre son vélo dans l'avion, parce que surtout s'il y a une escale. Donc pour aller au Mexique, il n'y avait pas d'escale. Pareil, entre Dakar et Nairobi, il n'y avait pas d'escale, parce que c'est eux qui le manipulent. Et on a beau mettre un peu de papier bulle autour, en fait, si on balance le carton, le vélo, voilà. Je connais quand même des voyageurs qui ont retrouvé leur vélo dans un sale état. Donc voilà, mais c'est tout à fait possible de mettre son vélo dans l'avion.
Je pose ma question alors. À propos du matériel, donc vous avez eu un sponsor pour les vélos, si je comprends bien après. Mmh. Est-ce qu'il a fait des vélos à vos spécificités, ou c'était des vélos normaux qu'il a un petit peu adaptés?
Ah oui, non, c'est des vélos normaux que tout le monde peut avoir. C'est juste que du coup, c'était un coût d'investissement de départ qui était zéro pour nous, puisqu'on n'avait pas besoin de... Enfin, puis moi, j'ai augmenté mon confort aussi, parce que sinon, j'aurais gardé mon vieux vélo.
Vous prenez de l'âge, je trouve.
Et oui, on vit tout ça.
Et vous avez vu la différence de facilité d'utilisation et de confort de route entre votre premier vélo et l'autre, ou...
Ah oui. Ah. Moi, je ne repasserai pas sur l'autre.
Ah, d'accord.
Il y a quand même un confort qui a rien à voir, une stabilité, ça n'a rien à voir, en fait. Après, on a toujours mal aux fesses, hein, peu importe le vélo. C'est-à-dire qu'on a beau changer de vélo, la selle ou quoi, il y a toujours ça, mais oui, non, c'était des...
Il faut changer de fesses, alors, finalement.
Des questions mécaniques, tout ce qui est pneus, tout ça. En Afrique, vous aviez la possibilité de trouver...
Question mécanique, alors donc déjà, c'est vrai qu'il faut avoir des vélos qui sont assez simples pour que ce soit des pièces un peu internationales, justement, qu'on puisse changer. Voilà, il y en a qui partent avec des freins à disque, hydrauliques. Enfin, après, si on sait les changer soi-même, ok, mais il faut avoir aussi les pièces pour changer.
Le cadre en acier.
Le cadre en acier, oui, beaucoup plus facile à réparer qu'un cadre en alu. Après, c'est des vélos qui sont lourds, qui sont résistants. Et après, les pièces, non, c'était assez facile à trouver, parce que eux-mêmes utilisent beaucoup les vélos.
Les pneus aussi.
Les pneus, pas tant, parce que les pneus, en fait, moi j'en avais pris un de rechange. On voit sur les photos où en fait je le fixe à l'arrière. Parce que moi justement j'avais des pneus qui étaient du 28 pouces mais assez larges. Enfin, on m'avait dit qu'en Afrique j'allais jamais trouver cette taille de pneus, parce que soit c'était des vélos de course très fins, soit c'était plus petit, plus lourd. Bref, du coup je me trimballais avec un pneu de rechange. Ouais. Donc le niveau du pneu. Mais c'est vrai que oui, il y a quand même quelques parties du vélo qu'on a avec nous, en fait. Même des rayons, par exemple. Les rayons, ça fait casser. Et c'est des dimensions qui sont très spécifiques pour chaque vélo. Parfois même la roue avant n'est pas pareille que la roue arrière. Donc on a quand même quelques rayons au cas où il y en a un qui casse, qu'on ait au moins ça. Et puis juste sur des trucs basiques. Pour changer la chaîne, par exemple. Mais sinon, après, ça se trouve, en fait. Mais c'est effectivement de ne pas avoir des vélos trop compliqués pour avoir des pièces un peu internationales.
Oui.
Le coût de départ pour partir, pour s'équiper, pour pouvoir partir, c'est à peu près de quelle heure?
Le coût de départ, ça c'est dur à dire parce que bah, moi j'avais déjà...
Des sacoches, quoi, hein, après...
Ah oui, juste vélo sacoche. Ah bah ça, ça c'est comme pour tout, ça, de tout à tout, parce que des vélos, il y en a à 50 euros et il y en a à 3000 euros, donc ça dépend de ce qu'on prend. Moi, mon vélo de départ, c'était le VTC, là, donc à 450 euros. J'avais acheté neuf, donc assez basique. Et puis les sacoches, c'était des sacoches Décathlon, je ne sais plus combien c'était, mais... C'était pas très cher, quoi. Après, ça dépend, hein, si on veut passer sur des sacoches plus résistantes et un peu plus imperméables, parce que les miennes, pour 3 mois, elles prenaient l'eau, quand même. Et ben, ça peut coûter 2 fois plus cher, 3 fois plus cher. Donc, c'est, voilà, c'est comme pour tout, ça dépend de...
Le coût du voyage, c'est à peu près combien
Et sur le coût du voyage, c'est à peu près du 10 euros par personne par jour. Donc c'est D'accord. bon après c'est essentiellement la nourriture puisque on bivouac un peu à droite à gauche les quelques réparations vélo ça peut être un transport de temps en temps quand il y a mais c'est vrai que souvent quand on part en vacances on dépense pour le transport pour l'hébergement et c'est ça en fait le plus gros du budget. Donc c'est pour ça qu'on peut voyager aussi longtemps, c'est aussi parce que, si c'est juste la nourriture, c'est vrai que même si... Voilà, c'est pour ça qu'on peut aussi aller dans des pays où c'est cher. En Norvège, c'était très cher, mais en fait, on n'a quasi pas dépensé parce que on prenait vraiment jamais d'hébergement et puis on était à vélo. Et voilà, avec un paquet de pâtes qui coûte 60 centimes ou 3 euros, bon, ça reste quand même un paquet de pâtes, c'est pas... Voilà, ça ne augmente pas le budget tant, et après ça se régule avec les autres pays. Donc ça reste raisonnable, et c'est pour ça qu'on peut le faire si longtemps. Quoi.
Et quel genre de nourriture vous aviez?
Quel genre de nourriture? Beaucoup de pâtes, des kilos de pâtes. Le beurre de cacahuètes aussi, parce que le beurre de cacahuètes, on en trouve partout. C'est, en plus, moi je suis végétarienne, donc du coup c'est beaucoup de protéines. Du pain, et puis après, bah, ce qu'on trouve, après, quand c'est des pays où c'est pas cher et qu'on peut manger dehors, au Mexique, on mangeait dehors tout le temps, en fait, ça coûtait moins cher que nous. Après, ça dépend vraiment des pays, mais quand on cuisine nous-mêmes, oui, de toute façon, on avait un tout petit réchaud pour deux, donc c'était surtout pâte et pâte. Peut-être une dernière question. Alors pour l'écriture, c'est quand je voyageais, enfin quand j'ai fait le premier voyage en tout cas, je pensais pas écrire un livre au retour. C'est au fur et à mesure en fait les gens qui me disaient ah mais tu dois avoir 1000 histoires à raconter, pourquoi t'écris pas un livre? Et puis bon voilà, j'y avais pas forcément pensé. Et en fait quand je suis rentrée à Paris, bah déjà c'est partager aussi avec ma famille, mes amis, en fait, c'est comment est-ce qu'on rentre d'un an et demi de voyage et qu'il s'est passé plein de choses et comment est-ce qu'on raconte ça, on partage un peu avec d'autres. Et donc, quand je suis rentrée, c'est vrai que c'est quelque chose voilà, qu'on m'avait mis un peu dans la tête et que je me suis dit, ah, mais oui, en fait, ça va de soi. Après, comme j'écrivais déjà un carnet de route tous les jours, bah, c'était beaucoup plus facile de pouvoir retracer parce qu'en fait, il se passe tellement de choses en une semaine que ça aurait été dur en fait de retracer même chronologiquement tout ce qui s'est passé. Mais entre ce carnet de voyage et les photos qui m'ont permis de, voilà, de rappeler des souvenirs, ben après ça s'est fait voilà, au fur et à mesure. Et puis je passais tout mon temps libre en fait à ça et c'était vraiment ouais, une façon de le partager, mais aussi pour moi en fait juste d'en tirer quelque chose et de revivre tout ça. Quoi.
Ok, on peut libérer Tiphaine peut-être en la remerciant.
Voilà, merci.
Merci beaucoup Tiphaine.
Donc si j'ai bien compris, vous allez reprendre vos vélos et puis vous allez faire un petit tour d'Ariège, un tour de France, etc. Hein. C'est bien ce que je sens dans la salle. Comment ? Ah oui, 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 il y a des livres, oui, si vous voulez. Si vous voulez continuer, il y a donc des livres de Tiphaine qui sont ouverts à l'entrée. Prochaine conférence, c'est le, je ne me trompe pas, le mercredi 27 octobre. Hein. Alors là, nous aurons, nous changeons d'horizon et nous allons plonger le nez dans l'époque gallo-romaine. Il y a eu, alors, un petit peu d'histoire locale, Carbone. En creusant le sol pour faire une usine pour nettoyer l'eau, les creuseurs de terre ont trouvé les restes d'une villa gallo-romaine. Donc il y a eu des fouilles archéologiques, et le monsieur qui a fait les fouilles, monsieur Macario, a accepté de venir, alors il a fait ça il y a 8 ou 9 mois, hein, le temps qu'il mette en ordre ses notes, etc., il viendra nous en parler mais le mercredi 27. Il parlera d'archéologie en général, et puis avec application sur la villa gallo-romaine de Carbone. Voilà. Et maintenant...
25
Bon. C'est le mercredi 25 octobre. Merci. Maintenant, ceux qui le souhaitent, il y a quelques... Nous allons apporter un petit peu d'éléments pour l'auberge espagnole. Voilà. Je vous remercie pour votre présence. Merci. Et peut-être on peut continuer la conversation au fond de la salle. Merci.